أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est avec un grand plaisir que nous commençons ces rencontres et ces programmes autour de ce message, le message de l'islam, Risalatul Islam, le message de l'islam, et d'essayer de comprendre ce que veut dire notre religion, ce que veut dire ce message qui est le nôtre, et comment finalement en tant que musulmane et en tant que musulman, nous devons en comprendre la substance, nous devons en comprendre l'orientation, nous devons en comprendre l'histoire aussi, et nous devons en comprendre les défis. Parce que si l'islam est la dernière des religions révélées, comme nous le croyons, comme c'est le sens fondamental de ce dernier messager, le prophète, qui est venu nous dire, qui est venu nous transmettre ce message, eh bien, il y a aussi à comprendre que cette religion est là à faire face, par les musulmans, à travers notre expérience de musulmane et de musulmans, aux défis de notre époque. Quelle réponse allons-nous apporter aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui parfois nous pèsent? Ce peut être les défis technologiques, ce peut être les défis scientifiques, ce peut être les défis sociaux, ce peut être les défis de l'éthique et des valeurs. Comment rester fidèle au message de l'islam à notre époque aujourd'hui? Avant ça, ce que j'aimerais faire avec vous pendant cette première rencontre ici autour de la question de comprendre l'islam, de comprendre ce message, c'est de se souvenir de ce dernier moment et de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, dit dans le Coran et le rappelle aux musulmanes et aux musulmans. Quand il est dit dans le Coran, « El yawma akmaltu lakum dinukum, wa atmamtu alaykum ni'amati, wa raditu lakum l'islam dina. » Il est dit, « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et j'ai répandu ma grâce sur vous et mon bienfait, et j'agrée l'islam comme étant votre religion. » Ce verset-là, quand il apparaît dans Surat al-Ma'idah, la cinquième surat du Coran, ce qui nous est dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé l'ensemble du cycle de la prophétie. Et ça veut dire en fait deux choses pour le musulman. Ça veut dire que toute la révélation qui a commencé avec le début de la révélation, avec la surat 96 du Coran, eh bien, va s'achever entre le début, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك, cette première dimension, اقرأ بسم ربك الذي خلق, c'est-à-dire ce premier message, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, jusqu'à la fin de la révélation, eh bien, ce moment-là, Dieu dit dans le Coran, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. C'est-à-dire que ces 23 années de révélation vont mettre un terme à ce cycle, ce dernier cycle de la prophétie. Mais en même temps, ce que ça veut dire, c'est que ce dernier message, après 23 années qui se terminent, il veut aussi dire, c'est la fin du cycle de toutes les prophéties et de tous les messagers. Que la paix de Dieu soit sur eux tous. C'est la fin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, de ce que Dieu va envoyer aux hommes au travers de ses prophètes, au travers de ses messagers. Et il nous dit, ce dernier message, c'est le message ultime et c'est le message que j'agrée, c'est le message que je vous offre comme étant celui de la grâce. C'est en même temps ce qui est important quand on retourne par exemple dans la sourate que le prophète salam, aimait tellement, qui est sourate al-Rahman, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. Vous avez ici cette dimension extrêmement importante. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Rahman, il est le miséricordieux, il est le tout miséricordieux, qui a envoyé le Coran, qui a fait descendre le Coran, qui a révélé la révélation, l'ultime révélation. Et cette ultime révélation, elle est celle que nous devons porter, celle dont nous devons être les témoins. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dernier message et comment comprendre ce dernier message quand il nous est dit que nous sommes venus à un terme? Eh bien, ce qu'il faut que nous fassions en tant que musulmane et en tant que musulman, c'est une obligation fondamentale, c'est une obligation extrêmement importante que nous devons prendre en compte dans notre façon de comprendre notre relation avec notre religion, c'est de comprendre quelles sont les priorités de cette révélation, quelles sont les priorités de ce dernier message. Eh bien, la première des choses, elle est importante, elle passe par notre compréhension de que faut-il pour adhérer à ce dernier message. Qu'est-ce que cela va exiger de la conscience humaine? Eh bien, ce qui nous est dit, on entre dans l'islam quand en conscience on dit deux choses. La première, c'est « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasul ». C'est-à-dire « j'atteste, je certifie, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que le messager, le prophète al-Salam, est son dernier renvoyé. » Et ça, c'est l'essence même de notre compréhension de l'islam. C'est la priorité parce que c'est en fait la condition. Étant la condition du fait d'être musulman, qu'est-ce qui nous est dit? La centralité de l'islam repose sur ce élément fondamental du tawhid, l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu est, comme vous l'avez dans le Coran, « Laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ». Rien de ce que vous pouvez imaginer, de ce que vous pouvez penser, de ce que vous pouvez construire ne lui ressemble. Rien ne lui est égal. Il est au-delà de tout ce que notre imagination peut construire et composer, et il est unique. Il est unique, il est celui qui voit tout, celui qui entend tout. Ses pouvoirs, par ses qualités, dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Certes, nous avons la vue, mais sa vue dépasse tout ce que nous pouvons imaginer quant à la vue. Certes, nous avons l'audition, mais son audition dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Il est au-delà de notre imagination et il est au-delà de notre imaginaire et de son pouvoir. Ça, c'est un élément très important pour nous en tant que musulmanes et en tant que musulmans parce qu'il est le fondement de ce tawhid. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et par rapport à tous les cycles de la révélation, c'est une évidence pour nous, les cycles qui viennent les uns après les autres ont toujours pour fonction de confirmer ce qui fut avant et de rectifier ce qui fut déformé. Et pour nous, bien entendu, l'islam qui vient après la tradition chrétienne dans l'ensemble de ses composantes, eh bien, l'unicité de Dieu, c'est pour rappeler le fondement de notre foi qui répond à la notion de la Trinité. Le Coran en parle. La Trinité, pour le musulman, est une conception du divin à laquelle il n'adhère pas. Il revient plutôt à la source et là, il retrouve des éléments que l'on retrouve d'ailleurs dans la tradition juive, dans le fondement de l'unicité, puis ensuite toute la tradition qui remonte à notre père Ibrahim alayhi salam, qui était celui qui avait été le pilier de cette transmission, bien que le message de l'unicité de Dieu l'ait précédé. Donc, ce qu'on doit retenir ici de toute cette réflexion, c'est cette dimension de ce premier élément de l'unicité de Dieu comme étant le fondement de l'islam, le tawhid. Il n'y a de Dieu que Dieu. Et le deuxième élément, qui est la deuxième partie de la shahada, c'est de dire et de reconnaître comme un des éléments de vérité et qui fait de nous une musulmane et qui fait de nous un musulman, parce que c'est les deux parties de l'attestation, eh bien, que le prophète, le messager, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, eh bien, est le dernier des messagers et qu'il est bien le messager. Ça veut dire en fait deux vérités. La vérité suprême, il n'y a un Dieu, un seul Dieu, et la seconde vérité qui vient confirmer la première et qui vient être la conséquence d'une certaine façon de la première et même une condition pour nous dans notre rapport à l'islam, c'est de reconnaître que le dernier des messagers, le prophète Mohammed est venu avec la révélation, est venu avec la vérité et qu'en plus de ceci, il est notre exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y a dans le prophète de l'islam le meilleur des exemples pour vous et donc c'est celui que l'on doit suivre et en même temps, on le suit dans la façon dont il a vécu, mais surtout dans la façon dont il a compris la dernière révélation, traduit la dernière révélation dans son quotidien par les éléments de la pratique, mais en même temps par le comportement humain. Et donc, à partir de toutes ces dimensions-là, ce qui est particulièrement important pour nous dans la compréhension que nous avons de l'islam, c'est de comprendre cette priorité-là. Et puis, comme une conséquence de cette shahada, comme une conséquence de ce fait, de ce témoignage. En fait, ce que nous avons à faire devant Dieu, c'est de témoigner que nous sommes musulmans et musulmanes, et devant les hommes, nous allons le témoigner par le fait de le dire, et puis ensuite par une deuxième chose, qui est la compréhension de l'islam. Comme le disait le prophète, Bouniyal Islam wa ala khamsin, l'islam a été fondé sur cinq piliers. Le premier de ces piliers, il est ce par quoi nous rentrons dans l'islam. Puis ensuite, il y a quatre piliers pratiques. Et ces quatre piliers pratiques, ils vont être ceux de la prière, ils vont être ceux du jeûne, celui de la zakat, pardon. Le deuxième, c'est la prière, la zakat, le jeûne, et puis ensuite le pèlerinage à la Mecque, si nous en avons les moyens pendant notre vie, en tout cas une fois. Et là, on s'aperçoit, dans notre compréhension de l'islam, que tout de suite après la deuxième des priorités de notre engagement en tant que comprenant l'islam, eh bien, il y a cette dimension de testifier qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète salam, est son messager, et puis ensuite eh bien, entrer dans cette pratique. Et cette pratique, elle va être à la fois fondée sur une décision personnelle, et elle va être exigeante dans le quotidien. C'est la compréhension de ces cinq prières rituel, cinq prières, les cinq cycles que l'on a pendant la journée. Et puis chaque prière va avoir deux cycles, puis quatre cycles, puis quatre cycles, puis trois cycles, puis quatre cycles. Un chiffre impair, mais qui va se déployer sur la journée et qui doit être compris comme notre façon de nous rappeler. Parce que à partir du moment où nous avons témoigné, tout ce qui va venir par la suite, tout ce qui va faire partie de notre religion quant à la pratique et aux cinq piliers va toujours être lié au souvenir et dhikr. Même le Coran, inna nahnu nazzalna dhikr, nous avons fait descendre là le souvenir. Le souvenir, c'est le Coran, c'est l'un des noms du Coran. Et tout ce qui va être notre pratique va être quelque chose qui va nous construire. Ça va être la solidité, parce que Bouniya, il y a l'idée de construction, il y a l'idée d'une force, il y a l'idée d'une protection, mais en même temps d'une solidité. Eh bien, l'islam, il est bâti là-dessus. Et tous ces éléments-là, la prière, et puis la zakat, et puis le fait de jeûner, et puis le pèlerinage, c'est tout est lié de ce point de vue-là à cette dimension du souvenir. Et le premier élément, bien entendu, c'est ce que dira Allah subhanahu wa ta'ala quand il appelle Moussa alayhi salam, et puis qu'il lui dit, et puis qu'il lui rappelle, en l'occurrence, ce qui doit être son message, ce qui doit être la compréhension de son message, quand il lui dit et qu'il lui fait comprendre ce à quoi doit servir la prière. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Adore-moi et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Et tout de suite, on a ici cette construction fondamentale de notre religion, la reconnaissance qu'il y a un Dieu, notre adoration de Dieu, et cette adoration de Dieu passe par la prière. Et la condition est la prière, et l'objectif de la prière, c'est le souvenir. Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. Comment est-ce que l'on va être avec lui dans le souvenir? Comment est-ce que l'on va vivre avec lui et faire en sorte, de ce point de vue-là, que nous soyons des musulmanes et des musulmans qui répondons à son appel? Premier élément donc, se souvenir. Et ça va être la même chose, même par rapport à la zakat. Et la zakat, ça va être cet argent, cet impôt social purificateur que l'on donne, que c'est une taxe, c'est une obligation que l'on donne aux femmes et aux hommes pauvres, à tous ceux qui sont pauvres dans la communauté. Et en fait, il va y avoir aussi un souvenir, même dans les biens. Il y a un souvenir avec le cœur, il y a un souvenir avec l'argent. Même quand on a un bien matériel, il y a un souvenir avec l'être et il y a un souvenir avec l'avoir. Ce souvenir de Dieu dans son avoir, ça va être de purifier son avoir. Cela veut dire de prendre ce qui doit être donné et là, de ce point de vue-là, de faire attention à de ne pas oublier les êtres humains et Dieu, parce que c'est le droit du pauvre sur le bien du riche dans le souvenir de Dieu, de tout notre engagement humain. Et donc, la zakat aussi, c'est un acte de souvenir, c'est purifier son avoir, et la purification, le travail que l'on fait sur soi-même, est un travail que l'on fait pour réussir à dépasser cela. Et si l'on continue, il en est exactement de même dans ce qui va concerner le jeûne, parce que le jeûne, ça va être non plus de purifier avec le cœur ou avec l'avoir, mais avec ce que l'on est en tant qu'être humain, avec son corps, ce souvenir de Dieu avec son corps, enlever, cesser de manger et de boire, et ce souvenir de Dieu avec son corps, et le pèlerinage, une fois dans sa vie, est également un souvenir, prendre la direction de la Mecque pour se souvenir de Dieu et être avec lui, et être avec lui dans sa vie à un moment de grande communion spirituelle. Voilà comment ces éléments peuvent être compris en tant que musulmans. Quand on a compris tous ces éléments, ce que veut dire comprendre l'islam, comprendre finalement en quoi cette dernière révélation, elle finit un cycle, et elle nous dit, en l'occurrence, cette dernière révélation, comment on est avec Allah, comment on est avec Dieu. Eh bien ici, on comprend qu'il y a le fait de rendre le témoignage, de témoigner qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que le prophète salam, est son dernier envoyé et son dernier messager. Et puis, en l'occurrence, ensuite, comprendre toute cette dimension de notre pratique. Mais il y a autre chose aussi dans notre compréhension de l'islam. Et ceci vient dans ce que nous avons de Hadith Jibril alayhi salam. Quand il interpelle le prophète, le messager alayhi salam, et qu'il lui dit, akhbirni an al-iman. Il lui dit, mais dis-moi, qu'en est-il de la foi? Et donc il surprend tous les compagnons du prophète alayhi salam qui sont avec lui. Il est interpellé et il va rappeler une dimension très très importante de notre foi. Parce que l'iman, c'est les six piliers de la foi. Les six piliers de la foi. Et ces éléments des six piliers de la foi, ils sont essentiels pour nous. Il faut vraiment que nous ayons une approche très profonde de ces piliers de la foi. Parce qu'ils sont la condition de la foi en tant qu'un être est musulman, en tant qu'une femme est musulmane. Et ce qu'ils nous disent, eh bien, c'est tout le domaine. Et l'iman ici, c'est ce qu'on aura dans les sciences islamiques et qui s'appellera l'aqida, c'est-à-dire le credo musulman. Quels sont les fondements de cette foi de l'islam? Quels sont les fondements de cette compréhension de l'islam? Et ici, la foi en Dieu, le fait de croire en Dieu, puis de croire en l'occurrence en ses prophètes, puis en ses livres, puis en ses anges, nous entrons ici dans une dimension qui n'est pas la pratique que l'on a quotidiennement, mais le sens profond de notre rapport au monde. Parce que ce que nous dit la foi, il y a un Dieu, il n'est pas visible, il n'est pas définissable, mais il est très 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 près, il est très très près de nous. Et il l'est dit, si le serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'appel de qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Cette dimension-là de la proximité, jamais notre intelligence ne peut définir Dieu, mais Dieu est proche de nos cœurs si nous sommes proches de son souvenir. Cette proximité avec le souvenir, ce que nous avons à faire en tant que musulmanes et musulmans, c'est de bien comprendre qu'il y a une attestation de foi, et puis il y a une pratique, et puis il y a le fondement de la aqida. Un Dieu. Et ceci, c'est quelque chose qu'il faut nourrir dans son rapport au visible, dans la relation à l'invisible, el raïb. Et ça, c'est une dimension qui est importante. El raïb, il y a la dimension de l'invisible, il y a la dimension du mystère, de choses que l'on ne sait pas, de choses que l'on ne définit pas, auxquelles on ne peut pas avoir accès, mais qui sont essentielles dans notre façon de comprendre notre religion en tant que musulmane et en tant que musulman. Et donc dans El Raïb, il y a cette dimension du Dieu unique. Il y a aussi une chose dont on parle peu à notre époque moderne et qui est particulièrement importante, c'est la dimension des anges, la dimension de ces êtres, de cette vie de l'invisible. Quand on rentre dans sa demeure et que personne n'est là, eh bien il y a pourtant une présence. Et on dit « Salamu alaykum wa rahmatullah » que la paix, la bénédiction de Dieu, la paix et salam, c'est-à-dire Efshus salam, disait le prophète en salam, et partout où on va, quand nos yeux ne voient que ce qui est visible, nos cœurs doivent rester connectés avec l'invisible. Ils doivent être connectés avec l'invisible parce que l'invisible a une vie, parce que l'invisible a du sens, parce que l'invisible, c'est là où notre foi va trouver également la source de sa vie, de la façon dont elle va être revigorée dans notre vie en permanence. Et donc, cette dimension de ce rapport al-mala'ik, et cette dimension de notre proximité même, est importante dans notre vie quotidienne. Quand le monde moderne, où que nous soyons dans une société majoritairement musulmane, que nous soyons en Occident, que nous soyons en Afrique, il y a une dimension parfois de réduction du réel aux choses tout à fait matérielles. Et puis il y a l'autre extrême. Il y a l'autre extrême qui passe dans le monde de l'invisible, mais qui fait du monde de l'invisible le monde de la superstition. Beaucoup trop souvent, les musulmanes et les musulmans tombent dans la superstition. On le voit dans certaines contrées qui comprennent mal l'islam ou qui prennent l'islam de façon superficielle. Eh bien, on tombe dans la croyance à des esprits, la croyance à... Bien sûr qu'il y a des djinns, et ça, en l'occurrence, on le croit en islam. Il peut y avoir des esprits ou un univers de l'invisible qui n'est pas sain, qui est mauvais, bien sûr. Mais avant d'en venir tout de suite à la superstition des esprits mauvais, il faut avoir une claire compréhension de l'islam et ne pas tomber dans ces croyances. D'abord, elles sont parfois anti-islamiques et parfois elles sont réintégrées dans l'islam, reprises dans l'islam. Et là, de ce point de vue-là, il faut faire particulièrement attention. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, il y a une chose qui est fondamentale. Nous sommes toujours devant Dieu dans notre compréhension de la aqida, dans notre compréhension de notre credo. Nous sommes toujours des êtres responsables. Et malheureusement, certains aujourd'hui utilisent tout cet univers des esprits et des djinns et même qui vont très très loin dans les dimensions de la ruqya, par exemple, l'exorcisme et tout ceci. Et on arrive à rendre les personnes non responsables, victimes en permanence. On ne regarde pas ce qu'on doit faire, on regarde ce qu'on nous a fait. Et de ce point de vue-là, on se sent tout le temps victime du mauvais comportement ou des mauvaises intentions des autres. Alors que l'islam, c'est d'abord d'être responsable, c'est d'abord de se prendre en charge. Et donc, dans ces éléments de la foi, de ce credo, c'est là où nous devons bien le comprendre. Comprendre également qu'il y a la connaissance des livres. Il y a des livres que l'on n'a pas vus et qui ont précédé le Coran. Et donc, il faut croire à cette dimension de ce que l'on n'a pas vu. Il y a des messagers qui sont morts avant que nous soyons nés, qui sont morts avant que nous vienne la dernière des révélations. Et il faut y croire. Et puis, il y a également ces deux éléments, celui de la prédestination. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet-là dans une de nos rencontres sur la question de l'qadr al-qadr, c'est-à-dire cette dimension de la prédestination et de la liberté. Comment agir avec ceci? Certes, Dieu sait tout. Certes, Dieu est connaisseur, mais dans son ultime puissance et dans son ultime connaissance, il sait tout. Mais dans nos vies quotidiennes, ce que nous savons et que nous avons à gérer, c'est notre propre liberté, parce qu'il y a une dimension de la liberté. Et certains savants, ça revient de l'état facile, on trouve ceci chez Abu Hamed el-Ghazali au XIIe siècle, qui en a fait un élément extrêmement important de son analyse, mais également chez d'autres penseurs, comme des personnes qui ont versé dans la philosophie musulmane, ou alors même dans la notion du fiqh, dans la notion du droit, c'est-à-dire comment définir la liberté? Eh bien, nous sommes des êtres libres et nous sommes des êtres qui devons gérer notre liberté. Et c'est l'un des éléments de notre karam, c'est-à-dire de notre dignité. Eh bien, en tant que musulmane et en tant que musulman, ce sont des éléments auxquels on doit croire, que nous avons une liberté, certes, mais en même temps, il y a des choses qui sont prédestinées. Il y a une dimension de ce rapport à Dieu qui sait et à qui nous demandons alors qu'il sait. Et puis, l'élément qui est aussi très très important dans notre religion, ce qui fait partie de notre credo, c'est qu'il y a un jour du jugement dernier. Ça veut dire quoi ceci? Ça veut dire que fait partie de notre credo l'idée que nous allons retourner à Dieu. Quand quelqu'un disparaît, quand quelqu'un meurt, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » nous appartenons à Dieu et c'est à lui que nous allons retourner. Et ce retour vers Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire? il veut dire que nous sommes des êtres de conscience, nous sommes des êtres responsables, nous sommes nés dans l'innocence, nous avons grandi dans la conscience et nous devrons revenir et rendre des comptes sur ce que nous avons fait, ce que nous avons fait de notre vie, ce que nous avons fait en même temps de notre engagement en tant que musulmanes et musulmans. Et ça, c'est le dernier élément sur lequel j'aimerais insister au moment, dans notre première rencontre sur l'islam. Quand il est dit au tout départ, et c'est ce que je disais au départ de ce programme, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, c'est qu'il agrée pour nous l'islam comme dernière religion. Ce qui est important après le témoignage, après ce qu'on a dit du témoignage, nous rentrons dans l'islam dans le témoignage, un Dieu est le dernier des prophètes, a.s. Et ceci, ça veut dire la bonne compréhension des piliers de l'islam qui sont tous là pour nous permettre de nous souvenir, de nous permettre de nous souvenir et de rester connectés à Dieu. Et avec, en même temps, cette dimension de l'iman, et l'iman c'est l'aqida, dont le fondement est le tawhid, et ensuite qui va nous dire la reconnaissance des prophètes, la reconnaissance des anges, la reconnaissance des livres, la reconnaissance de la prédestination, de ce qu'elle a de positif et de négatif, et en même temps la dimension de ce jugement dernier qui est particulièrement important et dont il est important de se souvenir. Ayant dit cela, on en arrive à un élément sur lequel j'aimerais insister, c'est que à partir de ceci, notre compréhension de l'islam va être d'avoir à appliquer ceci, à s'engager à l'appliquer dans notre vie. Et cela vient de notre compréhension. Il y a un Dieu et il y a notre retour vers Dieu. Et notre retour vers Dieu veut dire que notre vie a un sens. Que notre vie a un sens et qu'il faut l'appliquer de cette façon-là. Répondre à l'appel de Dieu, ça veut dire comprendre que ma vie, elle est liée à ce qu'il peut attendre de moi. Et ce qu'il peut attendre de moi, c'est la reconnaissance qu'il est là, le souvenir qu'il est là, l'engagement à répondre aux obligations qui sont liées à mon souvenir, au souvenir que je vais avoir de lui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do 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 do